Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs dans le Christ, que l'amour, la joie et la paix du cœur du Père, en le Fils et en les feux de l'Esprit Saint, feux d'amour et de gloire, vous comblent à l'instant et demeurent toujours avec vous. Dans le prolongement de notre temps d'adoration, qui a précédé cette séance d'enregistrement, recueillons-nous encore pour entendre cette fois la parole de Dieu. Écoutons ce que saint Jean a à nous dire dans sa première épître, chapitre 4, versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, et que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste son amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, avoir de l'amour les uns pour les autres. Dieu, personne ne l'a jamais contemplé. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, son amour est accompli. Parole du Seigneur. À vous tous ici présents, mon plus cordial bonjour. Quelle joie et quel stimulant pour moi de vous retrouver à peine 10 jours plus tard, aussi nombreux et aussi enthousiastes que lors de l'enregistrement de la première série sur le « Mangeons-nous les uns les autres en Église ». À travers vous, je salue tout l'auditoire invisible, innombrable, et j'envoie mes meilleures salutations anticipées aux éventuels auditeurs et auditrices de ces cassettes. À l'expérience des dernières années, on sait qu'elles circulent activement. Et on a porté à notre connaissance récemment qu'elles sont connues dans un 33e pays déjà, qu'elles ont été traduites en plusieurs langues et sont écoutées, semble-t-il, par des dizaines de milliers d'auditeurs. Que Dieu en soit loué. Il est un impresario hors pair. Maman Marie, mon plus grand merci. Et bon Saint-Joseph, modèle protecteur et procureur des fondations, à toi aussi, grand merci. Les règles du jeu vous sont bien connues, elles demeurent les mêmes. Durant ces séances d'enregistrement, vous êtes instamment prié de contenir toute réaction, de n'émettre aucun son, afin que ceux et celles qui écoutent ces enseignements un jour ne soit en aucune manière distrait ou influencé. Je vous remercie d'avance pour cette discipline de comportement L'embargo est toutefois levé, comme vous le savez bien, lors des temps de repos et de partage fraternel prévus tout au long de ces journées. Alors, à ce moment-là, les questions, les commentaires, les suggestions peuvent fuser et elles sont particulièrement bienvenues. Le thème d'aujourd'hui, aimons-nous les uns les autres en Église? Il s'agit d'un autre enseignement d'accompagnement aux interpellations fraternelles lancées en Église à la Pentecôte de 1990 et intitulé « Essor ou déclin de notre Église ?» Point d'interrogation. Le tout, cette série-ci, va de pair avec la série « Mangeons-nous les uns les autres ?» Si vous vous en souvenez, dans les interpellations « Essor ou déclin de l'Église », je mentionnais entre autres choses que 12 forces positives étaient déjà en place grâce à l'Esprit du Seigneur et toutes prêtes à prendre leur essor en Église si seulement on leur donnait un platchet sincère et un bon coup de pouce. Le retour à une Église du « aimons-nous les uns les autres » est une de ces 12 forces positives qui ne cessent de frapper à la porte de l'Église et de nos cœurs. En guise d'introduction, je vais lancer une bombe. Quand je concluais ma lettre à l'épiscopal du Canada, lettre fraternelle et ouverte, en date du 15 août 1984, je disais ceci au moment du lancement de la brochure « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage ». Et je cite « Nul doute qu'après avoir parcouru cette brochure, vous en aurez davantage, vous en saurez davantage, et nous aurons de quoi dialoguer. Nul doute également, et je le dis en vous taquinant, que cette publication va avoir le don peut-être de me faire perdre des amis. Mais c'est peu ou pas important pour le moment, pourvu que nous demeurions tous ses amis bien à lui, le Seigneur. Il saura bien, à son heure, nous réconcilier à sa manière, si nous demeurons tous à son écoute et en sa présence. » Fin de la citation. Mes bien chers amis, à mi-chemin, pour ainsi dire, entre les enregistrements déjà terminés, sur le scandale des scandales en Église qu'est le « mangeons-nous » et les enregistrements du message des messages sur le « aimons-nous » qui commence aujourd'hui, l'inspiration m'est venue en effet, dans la prière et le jeûne de ces derniers jours tout particulièrement, de recourir à une pédagogie de choc et de vous révéler dès le début de cette deuxième série, dans toute sa crudité et sa cruauté, ce qui demeurera comme la plus grande fraude de tous les temps, et ce au risque de vous secouer sans doute fortement, mais aussi probablement de vous décontenancer quelque peu et de vous attrister peut-être momentanément. Mais avant de vous révéler cette grande supercherie de tous les temps, permettez-moi de faire travailler votre imagination intensément durant quelques instants. Question de la dégourdir et de la réchauffer. Vous connaissez sans doute les grands musées célèbres à travers le monde. Parmi les plus réputés, il y a, comme vous le savez, le Louvre à Paris, le British Museum à Londres, le Prado à Madrid, les musées de Florence en Italie, le Metropolitan Museum of Art à New York, et non des moindres, le musée ou les musées du Vatican, à Rome, dont les trésors profanes et religieux sont inestimables. Peintures, sculptures, manuscrits précieux, livres, monuments, édifices, etc. Imaginons à son sujet, le musée du Vatican, le scénario d'un crime parfait de vol et de fraude. Je vous en donne les grandes lignes et les étapes. Ensemble, laissons trotter notre imagination. Une équipe bien organisée, la meilleure équipe de voleurs et de fraudeurs au monde, décide un bon jour de spolier les musées du Vatican. Lentement, prudemment, afin que personne ne s'en rende compte, de tous ces trésors inestimables, et de remplacer ceux-ci par des faux, à l'imitation à ce point parfaite que même des experts s'y font ou s'y feront prendre. L'opération se répartit sur quelques décennies, donc des dizaines d'années. L'équipe centrale des voleurs et des fraudeurs obtient pour ce faire même la collaboration du personnel du musée du Vatican. Tantôt en cachette, ils obtiennent la collaboration des employés subalternes. En leur donnant de bons pourboires, ils obtiennent la permission de sortir des œuvres d'art moins importantes sous prétexte de les photographier, de les exposer. Et une fois sorties, les pièces d'art sont reproduites en deux copies, deux faux. L'un de ces faux est retourné après au Vatican. L'original qui a été sorti, la pièce authentique, elle est confiée à une équipe chargée de les faire disparaître au fur et à mesure. Imaginons également qu'ils obtiennent la collaboration ouvertement en ce qui a trait aux plus importants trésors du Vatican des autorités officielles responsables des musées, sous prétexte de nettoyer, restaurer ou exposer ces mêmes grand chef-d'œuvre. Et encore une fois, ces grands trésors sortis des musées sont rapidement reproduits à s'y méprendre en deux copies, l'original voué à disparaître et un faux retourne au musée à la place de l'original. Et tenez-vous bien, j'en arrive au punchline, au clou. Une fois l'opération accomplie, où les musées du Vatican ont été à toute fin pratique dévalisés de tous leurs originaux, leurs authentiques pièces d'art, l'équipe des voleurs et des fraudeurs a le culot d'annoncer, sous un titre d'entreprise officielle et honorable cette fois, et tambour battant, l'ouverture d'un autre grand musée international où, précise-t-on à la surprise générale, se trouvent cette fois les vrais de vrais trésors du Vatican. Utilisant pour ce musée la deuxième copie des fausses reproductions. Pouvez-vous imaginer, mes chers amis, un peu la consternation universelle, le désarroi complet, pas seulement des autorités du Vatican, mais de tout le monde en général. Les originaux n'apparaissent plus nulle part. On ne pourra jamais, après enquête et expertise, accuser ce nouveau musée de les avoir volés au Vatican. Ce serait la confusion complète, car alors qui croire? Peut-on croire le musée du Vatican, les premiers? Parce qu'on va se demander un peu partout, est-ce qu'ils les ont déjà eus, les originaux? Est-ce qu'on va pouvoir croire les seconds, les voleurs et les fraudeurs? Car où ont-ils acquis toutes ces pièces d'art, si bien reproduites? C'est même génial à bien y penser. N'est-ce pas là, mes amis, un beau scénario pour un réalisateur de cinéma comme Alfred Hitchcock, ou bien la romancière Agatha Christie, ou une belle enquête à rêver pour le commissaire Maigret, Scotland Yard ou Interpol? Mes chers amis, vérifiez bien encore une fois vos ceintures, car je vous donne à l'instant un électrochoc important. Ce crime, des crimes, et en beaucoup plus grave, cette supercherie inimaginable, cette fraude de tous les temps, est déjà accomplie, pratiquement réussie. Elle est bel et bien sous nos yeux. Elle échappe encore à la très grande majorité. Et 99% de nos leaders religieux n'en saisissent pas le sens, la portée, les funestes conséquences, et encore moins l'origine, les causes successives et notre constante complicité passée et actuelle. Chers frères et sœurs dans le Christ, ce ne sont pas les musées du Vatican qui ont été dévalisés, soulagés de leur authentique trésor au cours des 4 ou 5 dernières décennies, mais c'est notre Église elle-même. À un même moment de notre histoire, Judoka le fourbe, Satan, vient de réussir son plus grand coup des 20 derniers siècles. Il a réussi à la fois, fort habilement, d'une part, à vider l'Église de ses plus belles valeurs éternelles pour les faire remplacer avec notre complicité, s'il vous plaît, souvent par des reproductions du dilué, du frelaté, des facsimilés. Son arme favorite a été le « mangeons-nous les uns les autres en Église ». Et durant nos divisions fraternelles internes, nous l'avons perdu de vue et il a pu manigancer à souhait. Il a tramé notre anémie, notre somnambulisme, nos illusions, nos mirages, notre tolérance aveugle et excessive, notre destruction et déclin à pas lent, mais certain. Et le même judoka, se servant cette fois comme arme du « aimons-nous les uns les autres », à l'heure venue, convenu déjà depuis le milieu de ce siècle, il vient d'ouvrir à la portée de tous un nouveau grand musée international, une super et pseudo-église qui s'appelle le Nouvel Âge, où l'on offre aux humains de la terre, mer et monde, et à savoir l'ensemble des grandes valeurs que l'Église devait ou aurait dû normalement déjà offrir de façon irrésistible aux hommes et aux femmes de la terre, les enfants de Dieu. Et ce musée du Nouvel Âge, contrairement à l'Église, le présente non pas des originaux et des authentiques du ciel, de Dieu, mais seulement des copies fausses et éphémères souvent. Le même judoka, le schnappant, le faux, le fraudeur, l'hypocrite, d'une main a travaillé depuis 50 ans en particulier à détruire les authentiques en Église, et de l'autre main prétend promouvoir les mêmes valeurs grâce à des faux. À l'Église, qui elle était mandatée dûment pour présenter au monde au nom de Dieu, par sa prédication et surtout son exemple, l'âge éternel, il réplique par le nouvel âge sans Dieu. Mes amis, on s'est fait avoir comme jamais auparavant. Et on s'y est enlisé, ignorant même qu'on était en plein sable mouvant. L'Église avait bel et bien là ou les réponses aux questionnements profonds et légitimes de tous les hommes et femmes de tous les temps. Mais en taisant nos réponses, en les diluant, en les modifiant, en les accommodant pour tenter de plaire sans trop déplaire, on a peu à peu déçu, on a sevré, on a privé, on a perdu énormément de notre crédibilité dans bien des milieux. Devant l'ouverture du Nouvel Âge, ce musée d'illusions, tous les déçus de l'Église ou des Églises, tous les affamés et assoiffés de spirituels qui n'ont pas été satisfaits en l'Église, tous les fanatiques chercheurs d'or et de métaux précieux, profanes et religieux, vont se ruer de ce côté-là, et leur engouement sera difficile et long peut-être à désamorcer. Et l'Église, quand elle va s'ouvrir les yeux pour vrai et pour de bon, et découvrir le crime dont elle a été victime et partiellement complice, que va-t-elle faire ou dire? Ou plutôt, justement, que va-t-elle pouvoir faire ou dire à toute fin pratique? Mes amis, avant de conclure ce que j'oserais appeler mon nouveau Hiroshima, ce lancement d'une puissante bombe en nos milieux d'Église, je m'en voudrais de ne pas préciser deux choses suprêmement importantes. D'abord, tout le séduisant que le Nouvel Âge a et aura à même notre propre faiblesse et disqualification en et de l'Église. On le sait, les historiens et les sociologues nous l'expliquent, c'est un fait historique, courant et évident, le pendule de la civilisation passe régulièrement d'un excès de matérialisme à un grand spiritualisme. Au XXe siècle, nous avons connu beaucoup un excès d'athéisme, de matérialisme, géré par le communisme et le capitalisme en particulier, il fallait s'attendre que l'humanité voulait maintenant réagir et que le monde veuille s'en sortir et, en cette fin de siècle, ait un appétit et une soif de spiritualisme. Alors, qu'est-ce qui va se produire? On a une recrudescence de goût pour la nature, la beauté et les respects des lois et des ressources de la nature, qui est en train de monter de façon très forte dans l'humanité. Le Nouvel Âge, lui, prône tout cela, favorise l'écologie et le respect de ses lois. Alors que l'Église, à l'origine du cheminement spirituel, a toujours voulu louer Dieu dans sa création. Mais quelle suite a-t-on donné à cela? Un goût qu'on retrouve de plus en plus accentué dans l'humanité pour la paix, le calme, la fraternité, l'entente. Et le Nouvel Âge met de l'avant le « aimons-nous les uns les autres dans la diversité ». Alors que c'était en l'Église notre signe, notre marque de commerce, et que nous avons cédé au « mangeons-nous les uns les autres plus souvent qu'à notre tour ». Il y a un nouveau goût chez les gens pour prier, contempler, méditer, adorer. Le Nouvel Âge appuie tout cela sous toutes ses formes, même ésotériques et autres. Et cela était pourtant parmi nos chefs-d'œuvre. Où sont-ils, nos chefs-d'œuvre de prière? On l'a laissé perdre au vent de l'hyperagitation. On a fermé nos églises, nos tabernacles sont désertés. Il y a chez tous les hommes et femmes de la terre actuellement un grand goût de conservation, de survie, de perfection, de cheminement. Le Nouvel Âge arrive avec ses idées de réincarnation. Pour se parfaire et purifier, il faut revenir en une série de vies, alors que nous, en Église, nous avons à proposer la vie éternelle, la résurrection des corps, la régénérescence continue pendant l'éternité. Devant le goût de vérité et d'authenticité que l'on retrouve dans le peuple d'aujourd'hui, le Nouvel Âge a toute une série de nouveaux prophètes qu'on accueille, qu'on loue, qu'on célèbre. Ils ne sont pas des envoyés de Dieu. Mais il nous arrive aussi avec des morceaux choisis, tirés de la Bible, qui rassurent tout le monde. Alors que nous, nous repoussons les prophètes que Dieu nous envoie, nous prenons la parole de Dieu à la pige, nous la diluons, nous l'accommodons, et nous faisons nos morceaux choisis à notre fantaisie. Les gens se cherchent plus que jamais un vrai leader. Le Nouvel Âge arrive et leur propose une toute-puissance. Mentionne que Jésus est un prophète, rien de plus. Et nous, nous en avons un leader, Jésus, Dieu, Fils du Père, qui nous a envoyé leur esprit. Quand est-ce qu'on met de l'avant ce leader en Église? Les gens veulent de la bonne entente, de la joie, de la douceur. Le Nouvel Âge est tout à fait d'accord. En offre tous les moyens possibles, alors que nous, nous avons accès à cet amour trinitaire qui donne en plénitude intérieure et extérieure la joie et la paix, etc., etc. Mes chers amis, quand j'ai dit au tout début, dans mon scénario fictif concernant les musées du Vatican, que les fraudeurs avaient su passer tantôt en cachette par les petits et tantôt ouvertement par les autorités du musée, cela s'applique fort bien, bel et bien, au détournement de fonds en cours dans l'Église. D'une part, il n'y a jamais tant eu en liberté en l'Église de théologiens, de pasteurs, ici ou là, qui privément ou en petit groupe ne se gênent pas pour douter ou faire douter de la propos de la prière, de l'adoration, voire même de la résurrection, de la présence réelle, de l'importance ou de l'opportunité des sacrements. Et d'autre part, que de chefs de ville, de file qui laissent dire ou laissent faire pour n'être pas pris à partie et avoir à combattre spirituellement. Vous savez, les oracles de Jérémie n'ont pas perdu leur saveur, demeurent parfois de très brûlante actualité. Et j'en cite un sur les prophètes. Mon cœur en moi est brisé et je tremble de tous mes membres. Je suis comme un homme ivre, comme quelqu'un que le vin a dompté à cause de Yahvé et de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Et adultère, on peut le mettre dans tous les sens, d'union illégitime, d'idées, de valeurs, etc. Oui, à cause d'une malédiction, le pays est en deuil, et les packages du désert sont desséchés. Les hommes courent au mal. Ils dépensent leur force pour l'injustice. Oui, même le prophète et le prêtre sont des impies jusqu'en ma maison. J'ai trouvé leur iniquité. Oracle de Yahvé. Aussi, leur voix va se changer pour eux en fondrière. On sait qu'une fondrière, c'est un affaissement. C'est un trou d'eau ou de boue dans un chemin défoncé. Ils y culbuteront. Oracle du Seigneur. Et l'autre oracle de Jérémie qui a été remis sous nos yeux dimanche dernier s'applique fort bien à l'heure actuelle ou à l'heure qui vient. Et je cite, chapitre 23, verset 1. Malheur aux pasteurs qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage, oracle de Yahvé. C'est pourquoi ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui ont à paître mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées et ne vous en êtes pas occupés. Eh bien, moi, je vais m'occuper de vous pour vos méfaits, oracle de Yahvé. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurai dispersées et je les ramènerai dans leurs prairies. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les feront paître. Elles n'auront plus crainte ni terreur. Aucune ne se perdra, oracle de Yahvé. Mes amis, la subtilité des subtilités de Judoka à travers le Nouvel Âge, c'est qu'il a gardé sensiblement les mêmes emballages aux divers produits offerts. Les gens y voient donc de prime abord une réponse à leurs profondes aspirations de toujours, et n'ont donc aucune raison valable, du moins au premier coup d'œil, de refuser le paquet. Mais si l'emballage est le même et semble rassurant, le contenu s'avère tout différent. Dieu Tout-Puissant et sa grâce ne s'y retrouvent pas, car le Nouvel Âge l'ignore, Dieu, et veut établir un contre-royaume au sien. Les forces adverses y ont donc un laisser-passer et un libre cours permanent. Bref, en l'Église authentique, on a et on avait tout cela et beaucoup plus encore. Et tout marqué au sceau divin, donc de l'authenticité, de l'éternité, qui est la garantie des garanties pour tous. Mais je ne veux pas terminer cet électrochoc sans vous confier en second lieu que malgré l'ampleur de notre échec, de notre désillusion momentanée, je devrais dire de notre humiliation devant cette supercherie, et malgré l'ampleur du succès du moins apparent et momentané de l'équipe de judoka et compagnie limitée, on sait que c'est actuellement la grande vogue, la grande mode, le grand succès. Nous sommes, mes frères et sœurs dans le Christ, déjà victorieux. L'Église de l'âge éternel va l'emporter haut la main sur la pseudo-Église du Nouvel Âge, c'est sûr et certain. D'abord, pour trois grandes raisons, Dieu est à l'œuvre en son Église plus que jamais. Judoka, lui, est le promoteur non identifié, camouflé même, mais réel de l'autre opération, illusion, mirage. En second lieu, Dieu a promis que jamais les forces adverses ne détruiront l'Église. Et en troisième lieu, moyennant la grâce de Dieu que nous pouvons et devons implorer, peu à peu, les gens qui ont été d'abord trompés, dupés, induits en erreur et séduits, vont se réveiller et se révéler. Mais tout cela exige de notre part trois grandes conditions si l'on veut contrecarrer ce détournement de fond incroyable. Primo, assez d'humilité pour reconnaître notre péché, nous en repentir et réparer les torts immenses causés par tant d'indifférence et d'imprudence de notre part. Secondo, sans paniquer, nous intéresser à l'appel du Seigneur qui veut relancer spirituellement son Église à travers ce style 2, nouveau, style du nouveau renouveau continu des cœurs et des esprits. Tertio, nous appliquer avant tout et surtout au « aimons-nous les uns les autres ». Qui est la clé de succès, ce signe auquel on vous reconnaîtra pour mes disciples, a-t-il dit, et cette unité indispensable grâce à laquelle tout le monde saura enfin, disait Jésus dans sa prière ultime à son Père, saura, le monde saura, que Jésus est bel et bien l'envoyé du Père, et pas seulement un prophète, et qu'il nous aime tout comme son Fils Jésus. L'Église de l'âge éternel, la nôtre, va l'emporter, je dis bien haut la main, car Dieu, encore une fois, pour la ième fois, dans son amour et sa miséricorde infinie, veut et saura nous pardonner et restaurer tous ces authentiques trésors de son Église, dès que les gardiens de ces trésors, les pasteurs, auront humblement compris et admis leur négligence et que les fidèles réclameront d'eux, avec courage, le retour des authentiques. Et ici, comme je l'ai fait dans le scénario fiction, je termine par un punchline, un clou. On peut bien se le chuchoter entre nous maintenant. Malgré toute sa ruse et tous ses calculs, Judoka n'a pas vraiment réussi à dépouiller complètement l'Église de toutes ses valeurs originales et authentiques. En fait, par un miracle de grâce divine qui ne manque pas d'amour et d'humour, dont nous n'avons même pas eu connaissance, nos pièces originales, nos authentiques, nos vraies valeurs vécues, ne sont pas, la plupart du temps, celles qui figurent dans notre salle de montre, dans la vitrine de l'Église. Les croyants, vieux jeu, non montrables, on les a plutôt cachés, mis au fond, au rencard. À malin, malin demi, c'est le cas de le dire, nos originaux et authentiques ont été sauvés de la razzia de Judoka, du moins en grande part. Même si on a peut-être eu tendance à les mettre de côté, à les reléguer aux oubliettes, à les étiqueter pour les archives, à croire qu'ils ou qu'elles étaient démodés, dépassés ou trépassés, l'Église compte encore beaucoup, éparpillés ici et là, de vrais croyants, de vrais priants, de vrais adorateurs, de vrais contemplatifs, de vrais et intéressés et amoureux de la parole écoutée et écrite de Dieu. De vrais pasteurs, des gens vraiment disponibles. En petit nombre absolu, certes, mais en nombre suffisant pour plaire à Dieu et plaider avec succès la grande libération, guérison et conversion de tous les autres. Redonnons-leur, pas seulement droit de cité à part entière, mais rejoignons-les dans leur fidélité exemplaire, car, à la vérité, ils nous auront sauvés du marasme. Et mes chers amis, pour ceux et celles qui seraient intéressés, je souligne l'existence d'une petite brochure du cardinal Danils, archevêque de Bruxelles-Malines, une lettre pastorale intitulée « Le Christ » ou le verso Noël 90 dans son excellente collection Paroles de vie numéro 19, une brochure de 48 pages qui donne l'essentiel sur le Nouvel Âge et en montre objectivement les fausses subtilités, ainsi qu'un ouvrage paru en France aux éditions Pierre Tucky de Monseigneur Jean Vernette, et intitulé « Le Nouvel Âge ». Le père Vernette est un spécialiste des sectes et il est vicaire général du diocèse de Montauban. Et on me fait signe que le temps est écoulé. Alors, mes chers amis, nous allons nous reposer.